Le 3 janvier dernier, Nicolas Maduro était enlevé par les forces américaines. De quel droit cet enlèvement relève-t-il, Isabelle Duché?
Et oui, parce que depuis 10 jours que Nicolas Maduro, président de la République bolivarienne du Venezuela, et son épouse sont détenus dans une prison de New York. Ils seront jugés pour trafic de drogue. Nous faisons le point ce matin sur les aspects juridiques de cette situation avec Enguerrand Serrurier, doyen de la faculté de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Alors pour rappel, Nicolas Maduro a été élu président de la République du Venezuela le 8 mars 2013. Sa réélection avec 51,20% des suffrages exprimés pour un troisième mandat le 29 juillet 2024 a soulevé des doutes sur sa légitimité. On peut se demander si cette non-légitimité justement justifie à elle seule la capture et l'exfiltration de Nicolas Maduro. Qu'est-ce que vous en pensez, Enguerrand Serrurier?
Alors, la présidence de Nicolas Maduro s'inscrit dans la suite du régime chaviste. Et déjà, le deuxième mandat, en 2017-2018, avait été fortement contesté et n'avait pas été reconnu par l'Union européenne, notamment. Il n'empêche... En fait, vous me posez la question, Isabelle, de la légitimité contre la légalité.
Ben, c'est un peu ça, oui.
Voilà. Alors oui, bien sûr, quand on fait le bilan de Maduro au Venezuela, on peut se douter très fortement de sa légitimité, puisque avec 8 millions de réfugiés sur une population de 28 millions d'habitants au total, un PIB qui a baissé de 80% depuis sa première élection en 2013, à la suite du départ de Chavez, on est sur un État qui pourrait être considéré comme failli.
Oui.
Mais ça reste un État souverain dans l'ordre international. Si on continue toujours d'un point de vue éthique et moral, est-ce qu'on peut appliquer, par exemple, à cette opération contre Maduro, les critères de la guerre juste qui ont été développés par saint Thomas d'Aquin?
Oui.
Vous connaissez les trois critères, c'est l'ordre d'un souverain légitime. Là, du
Donc
point
là,
de vue,
ça se discute.
Ça se discute, notamment du point de vue américain. Est-ce que Trump avait bien le droit de mener cette opération? Ça, on le verra après avec les débats au Congrès. Ensuite, est-ce que il y avait bien une attaque qui avait été subie par les États-Unis en la matière, d'où l'utilisation du terme narcoterrorisme? J'y reviendrai.
Oui,
c'est une forgerie quand même. Hein, le narcoterrorisme, c'est la première fois qu'on l'utiliserait pour ce genre d'opération en dehors du cas du Panama. Peut-être aurais-je le temps d'y revenir.
Oui. Et ensuite, et pourtant le Venezuela est quand même une plaque tournante justement du terrorisme. Et ça, c'est un des faits de Nicolas Maduro.
Ça, tout à fait. Mais alors du narcotrafic. Mais oui. Peut-on assimiler le narcotrafic et le terrorisme en droit international, qui permet, et c'est là où c'est astucieux, la légitime défense depuis la résolution du Conseil de sécurité de 2001 concernant l'Afghanistan, suite à cette terrible agression qui a été l'attentat du World Trade Center du 11 septembre, on avait reconnu le droit de légitime défense, mais c'était un cas très particulier. Et il n'est pas sûr que ce soit transposable au cas vénézuélien. Et ensuite, dernière chose, dernier critère de la guerre juste, est-ce qu'il y a une bonne intention derrière cette intervention américaine?
Tout est dans le bon.
Voilà. Et concernant Trump, je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser ce qualificatif quand on voit les expressions qui ont été utilisées. On ne se place pas du tout dans une défense de la démocratie ou justement de la restauration d'une élection bafouée. Ce n'est pas du tout ce qui est mis en avant par la présidence Trump. Donc, on est vraiment face à un problème éthique, certes. Peut-on tout faire contre un tyran? C'est un petit peu ce qu'avait commencé à dire le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lorsqu'il a dénoncé à sa façon l'intervention de Donald Trump, en commençant par l'énoncé des violations commises au titre des droits de l'homme par le président Maduro. Le problème est qu'il reste chef d'État. Et que les droits de l'homme ne permettent pas de triompher, si j'ose dire, dans l'ordre international actuel, de ces immunités et de la souveraineté.
Même si ces droits de l'homme sont bafoués, et vous avez parlé de ces 8 millions de personnes exilées, et puis quand même les Vénézuéliens qui vivent dans la peur, faut pas se cacher.
On est face en fait à une collision de normes,
ouais.
Et ces normes ont une valeur égale dans l'ordre international.
Si on se base justement sur ces règles de droit international, dans quelle mesure les États-Unis sont dans la légalité en procédant à l'enlèvement et à la séquestration, la détention du couple Maduro?
Alors, je vais vous répondre très franchement.
Oui.
on n'a aucun moyen de soutenir la légalité de cette intervention, très honnêtement. Et il ne s'agit pas d'un parti pris, il s'agit vraiment d'une analyse juridique de la chose. Pourquoi ? La Charte des Nations Unies, qui a été portée par les États-Unis, notamment en 1945, pose l'interdiction de l'emploi de la force ou de la menace de l'emploi de la force. Or, on voit bien que toute la diplomatie Trump, c'est la menace de l'emploi de la force. Donc, en soi, on pourrait même dire que l'intégralité de la présidence Trump viole en quelque sorte la Charte des Nations Unies, notamment son article 2, paragraphe 4, ce qui est très problématique. Ça, c'est vraiment la règle générale. Et même si on retenait cette qualification de narco-terrorisme, il existe une convention qui est la convention de Palerme, qui a été adoptée en 2000, à laquelle d'ailleurs est partie à la fois le Venezuela et les États-Unis pour lutter contre la criminalité transfrontière organisée. Et qui prévoit bien en son article 4, paragraphe 2, qu'un État parti ne peut pas se substituer à un autre État sur son territoire en utilisant ses compétences souveraines pour, je cite, prétendre lutter contre le narcotrafic. Donc en soi, même l'opération en tant que telle, qui nous est présentée comme une opération de police, ce qui est tout de même assez fort de café, et qui est en réalité une opération militaire, eh bien, elle est illégale même en vertu du droit international spécifique pour lutter contre le narcotrafic. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est résolu par le droit international tel qu'il est. Il y a bien des problèmes, mais en tout cas, l'action menée est illégale. Et je terminerai avec une chose, l'immunité de Maduro comme chef d'État ne dépend pas de la reconnaissance ou pas du résultat d'une élection. La reconnaissance est considérée en droit international comme un acte discrétionnaire. Si politiquement cet État ne nous convient pas, on ne le reconnaît pas. Mais ça n'a pas de conséquences sur la définition juridique de l'État, un territoire, un peuple, un gouvernement, et de son chef. Et ça, c'est une immunité coutumière en droit international. Tant que Maduro est président, il a une immunité personnelle inviolable.
Ah oui, d'accord. D'où le fait qu'il n'aurait pas dû être enlevé à ce titre-là. Néanmoins, bon, on voit bien que l'exercice de la force a été fait par les États-Unis. Est-ce qu'il peut se faire quand même dans un certain cadre? Et si cadre il y a, lequel est-il?
Le seul cadre international qui permet de juger des dirigeants en exercice, c'est la Cour pénale internationale. J'ai mentionné cette coutume. La coutume a une dérogation, c'est le statut de la Cour de pénale internationale qui a été adopté à Rome en 1998 et à laquelle le Venezuela est parti. Et il y a des enquêtes contre le Venezuela qui sont actuellement en cours. Il y a même deux enquêtes pour les faits de 2017 et pour les faits de 2024 devant la CPI. Mais vous connaissez la position des États-Unis qui font tout pour détruire au contraire la Cour pénale internationale avec des mesures contre les juges de la CPI. Donc on peut difficilement imaginer Trump remettre Maduro à la Cour pénale internationale. Pourtant s'il le faisait,
c'est le rôle de cette Cour pénale de toute façon.
Tout à fait, mais pour juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Néanmoins, les actes du régime Maduro pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité.
Et ça, qui est-ce qui décide de soumettre Maduro à cette Cour pénale internationale?
C'est la difficulté du droit international classique tel que nous l'avons aujourd'hui. C'est un droit international des États, donc encore faut-il que le Venezuela accepte de remettre le président Maduro à la Cour pénale internationale. D'accord. Et c'est là où on se heurte à l'architecture classique de ce droit, qui est la même depuis Richelieu. La souveraineté, en fait, des États empêche des intrusions trop fortes dans leur ordre juridique. C'est à la fois un échec, c'est aussi une protection contre les abus des puissances.
Oui, c'est vrai. Sur son propre sol, vous l'avez dit, Enguerrand Serrurier, chaque État est souverain de l'ordre, mais est-ce qu'il existe au niveau international l'équivalent?
Alors, on a tenté de mettre en place, dans l'affaire libyenne, si vous vous souvenez, lorsque Kadhafi avait menacé de massacrer une bonne partie de son peuple, on avait tenté de mettre en place ce qu'on appelait la responsabilité de protéger. C'est-à-dire que, en vertu de l'article 24 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix. On parle toujours des délégations de souveraineté à l'Union européenne. La première délégation de souveraineté qu'on a faite, c'est le droit de faire la guerre, qui est transmis à l'ONU, sauf cas de légitime défense, article 51 de la charte. Et on n'est pas dans ce cadre-là concernant le Venezuela. Et donc, on avait tenté en 2008 d'adopter une résolution, ça avait été adopté, contre Kadhafi, au nom de la défaillance de la Libye de protéger sa population, on avait donné un mandat international à la fameuse force notamment menée par l'OTAN contre Kadhafi pour protéger la population. Vous savez ce qu'il en a été, c'est allé jusqu'à au meurtre de Kadhafi et la fin de son régime. Et à partir de ce moment-là, la Russie et la Chine, qui ne sont certes pas des parangons de démocratie, mais qui sont quand même dans une position paradoxale actuellement de se dire défenseurs du droit international classique, eh bien on dit jamais plus nous n'accepterons une résolution du Conseil de sécurité qui sert finalement à déstabiliser les autres États. Et donc on est bloqué à cause de ce détournement du mandat libyen par l'OTAN notamment.
Oui. Alors, si je comprends bien, le droit international peut s'imposer à certains États s'il y a justement cette question de la protection de la population, mais c'est quand même un cadre très restrictif.
C'est ça, et qui devient de plus en plus théorique, puisque on voit bien à l'heure actuelle, et ça c'est quand même, il faut quand même le dénoncer assez vigoureusement, le droit international n'est pas mort. Il y a plus de 50 000 traités sur des sujets très variés, du type le tourisme, le fisc, etc. Tout ça fonctionne au quotidien. Ce qui est vraiment éprouvé, c'est l'ordre international multilatéral. Par des tentatives de, notamment du président Trump, qui veut tester, on voit bien sa façon de faire, en donnant des coups de boutoir, mais des coups de boutoir qui sont peut-être mal réfléchis, car où va-t-on aller? Je me permets quand même de citer, et je pense qu'il faut le rappeler, le pape Léon, qui a mis en garde lors des vœux au corps consulaire de 2026 contre, je cite, la guerre qui devient à la mode et cette ferveur guerrière qui se répand.
C'est vrai.
Si on n'a plus de droit international public au sens maintien de la paix et Conseil de sécurité de l'ONU, vers quoi va-t-on?
Oui, c'est un garde-fou quand même.
Oui.
Ouais. Et justement, est-ce que si le droit international est mis à mal et ne tient plus son rôle de garde-fou, est-ce qu'il y aurait des mesures de substitution qui pourraient justifier l'emploi de la force au niveau international?
Alors, justifier l'emploi de la force en tant que tel, on en reviendrait aux anciennes interventions d'humanité. C'est-à-dire, souvenez-vous, par exemple, sous Napoléon III, la France était intervenue au Liban pour protéger les minorités chrétiennes, la population chrétienne, dans les années 1860, dans l'inaction de l'Empire ottoman et qui était en train de se faire massacrer par d'autres communautés locales. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Abdelkader s'est illustré en protégeant les chrétiens, notamment à Damas, etc. Mais ça, c'est une politique de la puissance. Il faut vraiment prendre garde quand même à ne pas se laisser entraîner sur cette pente.
Terrain,
On a entendu, notamment dans la presse ou dans les médias, une certaine joie malsaine de certains commentateurs qui se disent réalistes pour dire que le droit international, ce n'est qu'une norme d'opérette. C'est faux. Tous les États, y compris les pires dictatures, se réfèrent au droit international pour justifier leur position. On peut même dire que ceux qui se prétendent des réalistes sont en fait des nihilistes, en fait, au nom d'une vision du pouvoir brut qui serait, une certaine vision guerrière des choses. J'ai envie de dire, quand on veut quitter le cénacle onusien diplomatique assez protégé pour se propulser en plein Jurassic Park, il faut avoir les moyens quand même de se défendre et il faut prendre garde à ce genre d'attitude.
Oui.
Lorsque Donald Trump nous dit « I don't need international law », j'attends de voir si dans 10 jours, ce sera toujours le même discours lorsqu'on sera confronté à certaines réalités.
Ben, vous nous le direz dans 10 jours alors.
Peut-être avec le Groenland.
Avec le Groenland. Merci beaucoup, Enguerrand Sirurier, doyen de la faculté de droit de l'Institut catholique de Toulouse. C'était votre grand entretien sur Radio Présence.
Merci Isabelle.